Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais souhaiter la bienvenue en particulier aux personnes qui viennent pour la première fois. Vous êtes quelques-unes et on veut vraiment vous souhaiter la bienvenue dans cette église. On est vraiment reconnaissant au Seigneur que une semaine de Pâques, nous soyons aussi nombreux. En tout cas, on remplit à peu près les chaises. Et merci en tout cas à Laura et à Stéphane pour ce temps où ils nous ont conduits, effectivement, à fixer nos regards sur Jésus, le roi des rois. Et le texte que nous avons lu, que Stéphane et Laura ont lu, est connu. En tout cas, si vous avez fréquenté les classes de l'école du dimanche, vous avez déjà entendu cette histoire. Et c'est un texte qui peut presque passer inaperçu en ce dimanche des Rameaux, où habituellement, justement, nous nous focalisons, comme nous l'avons fait, sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Eh bien, ici, nous sommes peut-être à une journée de marche de Jérusalem. Jésus arrive bientôt à destination. Il a annoncé plusieurs fois à ses disciples ce qui devait lui arriver, à savoir ses souffrances de la part des hommes, sa mort et sa résurrection 3 jours après. Il a pris le temps de préparer ses disciples. Il a pris le temps de les enseigner comme nous l'avons vu les semaines précédentes. Nous sommes donc à l'avant-dernière étape du côté de Jéricho, donc plus très loin de Jérusalem. Et Jésus n'est plus seulement avec ses disciples, mais nous lisons au verset 46 qu'une assez grande foule les a rejoints. Et la semaine dernière, j'ai rappelé la structure de la section centrale de cet évangile. La section centrale qui est encadrée par 2 récits où Jésus guérit un aveugle. Si dans le premier récit, Marc nous rapportait une guérison en 2 temps, Jésus s'y prend à 2 fois, eh bien ici, dans notre texte, la guérison est instantanée. Dans le premier récit, Jésus amène l'aveugle hors du village, loin de la foule. Ici, Jésus est entouré par la foule, et pourtant, il prête attention à ce mendiant aveugle que personne ne veut lui amener. Et ces contrastes que je viens de décrire entre ces 2 récits, eh bien, indiquent que la situation a évolué, que plus nous nous approchons de Jérusalem, et plus ce qui est dit à propos de Jésus devient explicite et public. Et c'est dans ce contexte que Marc rapporte cette rencontre entre Jésus et Bartimée, entre le fils de David et le fils de Timée. Et avant que j'aille plus loin, eh bien, nous allons avoir un temps de restitution. La semaine dernière, les groupes de maison ont étudié ce texte, donc ils ont pris un peu d'avance, et j'aimerais bien entendre les conclusions que vous en avez tirées. Et donc, je vais demander aux responsables de chaque groupe, alors ils ne sont pas du tout au courant, mais je vais demander aux responsables de chaque groupe, eh bien, de venir sur l'estrade, ou un représentant si vous préférez, mais en tout cas, et de pouvoir nous résumer ce qui a été dit à propos de ce texte, vraiment très brièvement. Alors, il manque 2 groupes. Le courage des hommes. Et puis, il y a encore un groupe, il me semble que vous. Je vous laisse la parole, simplement de nous dire un petit peu quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes parvenus. Si vous voulez, oui.
Alors, comme application, on a vu qu'il fallait persévérer, il fallait demander, il fallait crier au Seigneur pour qu'il nous donne quelque chose.
Pour ma part, on a vraiment mis l'accent sur pourquoi le... En quoi Bartimée a eu la foi, et parce qu'on voit qu'à la fin il avait écrit « Ta foi t'a sauvé » et à quel moment, en fait, comme le passage est assez court, cela intervenait. Et on a vu le lien surtout où quand il dit « Fils de David », c'est pas anodin. Donc je sais pas si je... Voilà, donc on a plus creusé cette partie-là.
Je vais lire les notes de Philippe. Non, je... On a vu déjà que Bartimée, Bar, ça veut dire fils de Timée. Ça, je ne savais pas si vous saviez. Voilà. En vrai, on a vu que Jésus répond de manière individuelle à chaque personne. Et là, pour le coup, c'était pour Bartimée, et qu'il considère chaque personne. Parce que comme c'était un mendiant qui était aveugle, et ben, je pense que tout le monde le connaissait, mais sans le considérer forcément. Et lui, il a pris le temps de le considérer et de pouvoir le faire appeler. Et en fait, ça a provoqué beaucoup de changements de la foule, parce que la foule ne le considérait pas. Et au final, c'est eux qui disent bah, « Prends courage, lève-toi et ils t'appellent. » Et du coup, ça permet de voir que Jésus a témoigné d'un miracle, mais, et que tout le monde l'a vu. Et aussi de voir que Bartimée a pu suivre Jésus par la suite, quoi. Et que vraiment, c'était pas juste il voulait être... Il voulait être guéri et puis voilà. Et en fait, il a vraiment voulu suivre Jésus en chemin après. Voilà. Non, j'espère, c'est bon.
Alors, la prédication est à peu près faite hein, maintenant. Mais en tout cas, je tenais aussi publiquement à remercier les différents responsables des groupes de maison pour leur engagement semaine après semaine et tout au long de l'année. Merci à vous. Je vous propose de distinguer trois moments dans ce court récit. Premièrement, le moment où il y a l'appel à l'aide, ou pour le dire autrement, celui qui ne voit pas, voit. Ensuite, le deuxième moment, la compassion de Jésus, ou pour le dire autrement, celui qui ne semblait pas voir, voit. Et puis enfin, le moment de la guérison, ou pour le dire autrement, celui qui ne voyait pas voit et suit Jésus. Est-ce que vous voyez? De toute façon, je vais revenir là-dessus. Mais il a fallu que je me creuse un peu la tête pour trouver ces titres. D'abord, regardons ensemble ce premier moment du texte, l'appel à l'aide, celui qui ne voit pas voit. Vous connaissez sans doute l'expression « au royaume des aveugles » complétée. Les borgnes sont rois. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu cette expression? Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une expression imagée pour décrire la situation de quelqu'un qui se trouve la situation de quelqu'un qui a peu de connaissances et qui malgré tout va briller en société, va passer pour un génie auprès de ceux qui sont encore plus ignorants, plus stupides que lui. Voilà ce que veut dire cette expression. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Eh bien, à bien des égards, par rapport à notre texte, nous pourrions détourner cette expression en disant qu'au royaume de ceux qui voient, les aveugles sont rois. Bartimée, bien que mendiant, bien qu'aveugle physiquement, voit. Il voit avec discernement celui qu'il appelle. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et même si les autres tentent de le faire taire, il répète de plus belle le même cri, « Fils de David, aie pitié de moi !» Nous avons sans doute du mal à imaginer la vie d'un homme aveugle. Puisqu'il ne voit pas, il ne peut pas travailler. Il est condamné, en tout cas dans la société de l'époque, à mendier. Il est considéré comme un marginal, considéré comme un laissé pour compte. Il est à l'image de ceux que Jésus désigne par le mot « petit ». Il est un de ces petits. Il est à l'image de l'enfant qui n'est pas important dans la société de l'époque, qui n'a rien à faire valoir, qui ne possède rien, si ce n'est un manteau dans le cas de Bartimée. Et rappelons-nous la leçon que Jésus a donnée à ses disciples à propos des enfants. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Bartimée est en effet un de ceux-là. Et lorsqu'il apprend que Jésus passe à côté de lui sur ce fameux chemin qui doit conduire à Jérusalem, il fait appel à lui. Pour lui, Jésus de Nazareth est le fils de David. Et tout à l'heure, nous l'avons rappelé aussi en lisant un texte dans 2 Samuel. Il est le fils de David, c'est-à-dire l'héritier au trône de David, le roi d'Israël, le Messie promis. Cet homme qui ne voit pas avec ses yeux physiques, voit pourtant spirituellement. D'ailleurs, on pourrait peut-être suggérer que puisqu'il a passé beaucoup de temps loin des distractions visuelles, il avait du temps pour méditer intérieurement. Et la suite de ce texte ne nous permet pas de penser qu'il fait usage ici de flatterie pour attirer l'attention de Jésus. Non, cet homme croit vraiment que le Messie annoncé par les prophètes d'autrefois, passe en ce moment même devant lui. Il y croit. Et jusque-là, Marc n'avait pas employé ce titre « fils de David » pour Jésus. Précédemment, au début de la section centrale, au chapitre 8, Pierre avait confessé que Jésus est le Christ. Et ici, à la fin de cette section centrale, Bartimée appelle devant tous le Messie. Bartimée appelle Jésus, fils de David, c'est-à-dire le Messie. Et d'ailleurs, Jésus ne cherche pas à le faire taire. Ce sont les autres qui s'en chargent. Jésus ne reprend pas non plus cet homme comme il a repris l'homme riche qu'il appelait bon. Non, Jésus ne refuse pas ce titre. Il est le fils de David. Celui qui était annoncé, c'est bien lui, et il est là. C'est lui que Bartimée appelle, et vous remarquez cet appel à l'aide. Aie pitié de moi. Bartimée croit que Jésus peut avoir de la pitié pour lui, que Jésus peut avoir de la compassion, de la miséricorde à son égard. Et nous pouvons supposer que Bartimée était habitué à longueur de journée à ce qu'on n'ait pas pitié de lui, justement. Mais il attend de ce fils de David qu'il ait pitié de lui. À propos du Messie, lorsque nous regardons chez les prophètes, nous lisons notamment chez Jérémie la prophétie suivante, Jérémie 23, verset 5. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste, autrement dit une descendance. Il règnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. » Et puis chez Ésaïe, nous lisons en Ésaïe chapitre 11, versets 3 et 4, toujours à propos de ce Messie, « Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec justice. Avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. » Ces versets que je viens de lire illustrent l'attente que les Juifs pouvaient avoir au sujet du Messie, un fils de David qui règne avec justice. Un roi juste, pour le dire autrement. Un roi qui prête attention à ceux qui sont dans la détresse. Un roi qui ne s'arrête pas aux apparences. Et Jésus ne pouvait pas manquer cela s'il était véritablement le Messie. S'il était véritablement le Messie, il ne pouvait pas manquer cet appel à son sujet. Lui qui est le roi juste. Et Bartimée ne s'y trompe pas puisque Jésus s'arrête. Et justement, nous allons voir ce moment où Jésus fait preuve de compassion. Jésus qui est un peu celui qui ne semblait pas voir et qui pourtant voit. Lorsqu'on lit les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui nous rapportent la même scène, mais pas toujours les mêmes détails, nous constatons quand même que tous les trois écrivent au moins ce détail-là, au verset 49. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Et ça devrait justement nous arrêter à ce moment-là pour que nous puissions considérer ce que ça veut dire. Nous n'oublions pas que Jésus doit aller à Jérusalem, qu'il est entouré par la foule, qui n'est sans doute pas silencieuse. Il y a pas mal de bruit autour de lui, sans doute. Mais Jésus entend les cris de cet homme. Parce qu'il est le Messie, parce qu'il est le roi juste. Lui, il entend. Quand vous appelez les secours, vous vous attendez à ce qu'ils viennent. Malheureusement, il arrive qu'ils tardent, voire dans le pire des cas, qu'ils ne viennent pas du tout. Mais avec Jésus, c'est différent. Il est si rassurant pour nous de savoir que quand nous appelons Jésus, il nous prête attention. Dans notre détresse, nous ne crions pas en vain. Notre Sauveur est toujours le même, tel qu'il est présenté dans notre texte. Et s'il était physiquement avec nous, il s'arrêterait aussi. Et je trouve remarquable que dans notre texte, notre Seigneur fasse preuve d'une telle disponibilité, alors qu'il a aussi un agenda à respecter. Mais il s'arrête. Et parfois, je me pose aussi la question, d'abord pour moi-même, est-ce que moi j'ai le temps de m'arrêter pour les autres ? Notre Seigneur est plein de compassion. Et cela correspond à ce qui est dit de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Si je vous lis par exemple le psaume 4, un psaume de David, voici ce que David écrit. « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mise au large. Aie pitié de moi. » On retrouve cette prière. « Aie pitié de moi. Écoute ma prière. » Et puis toujours dans ce psaume 4, verset 4, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. » L'Éternel entend quand je crie à lui. Pour nous qui sommes en Christ, assurément Dieu nous entend quand nous crions à lui. Et cela n'implique pas forcément une réponse immédiate de sa part. Mais avec la même confiance que le psalmiste, nous pouvons témoigner l'Éternel entend quand je crie à lui. Il vous est déjà arrivé de crier à Dieu ? Et est-ce que dans ces moments-là, vous étiez conscient qu'il vous entend ? Et c'est incroyable de retrouver cela chez Jésus, qui entend, parce qu'un homme crie à lui. Et en fait, tout simplement parce que Jésus est Dieu. Seul Dieu est aussi disponible. Jésus entend quand Bartimée crie à lui. Et voici ce que nous lisons au verset 49. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» Vous avez remarqué la répétition du verbe « appeler » ?« Appelez-le !» Ils appelèrent et on lui dit, « Il t'appelle !» À présent, toute l'attention est portée sur cet homme. Tous les regards sont tournés vers le mendiant. Parce que tout d'un coup, Jésus s'arrête. Tout le monde regarde, « Appelez-le !» On lui dit même, « Prends courage !» à ce mendiant. Parce qu'après avoir appelé Jésus, il est à présent appelé par Jésus. C'est intéressant ça. Il appelle Jésus et maintenant c'est Jésus qui l'appelle. Il t'appelle. Il ne t'ignore pas. Il t'a entendu. Et d'un bond, Bartimée se retrouve devant Jésus. Et nous lisons au verset 51 que Jésus lui demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Peu de temps avant, si vous vous souvenez au moins du texte de la semaine dernière, Jésus avait posé une question similaire à Jacques et à Jean. Au verset 36, nous disons « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et vous vous souvenez de la réponse de Jacques et Jean. Ces deux-là demandaient des places d'honneur aux côtés de Jésus, à droite et à gauche. Eh bien ici, au verset 51, nous sommes bien loin de tout cela. Bartimée l'appelle « mon maître, Rabouni ». Et ce qu'il attend du maître, ce n'est pas de l'argent. Ce qu'il attend du maître, c'est ce que Dieu seul est capable de faire. Il lui demande de retrouver la vue. Et ça, il me semble, hein, si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il demande à Jésus de faire ce que Dieu seul peut faire. Il est difficile d'évaluer exactement ce que Bartimée comprenait à ce moment-là concernant l'identité de Jésus. Est-ce que vraiment il le considérait comme Dieu ou non ? On a du mal à le saisir ici. Mais en tout cas, à ce moment-là, lorsqu'il demande cela à Jésus, il sait que Jésus est capable de lui rendre la vue. Il a sans doute entendu ce genre d'histoire. Il sait qu'il en est capable, qu'il en a le pouvoir. Et nous aussi, lorsque nous lisons l'évangile de Marc, depuis le début, nous savons que Jésus est capable de rendre la vue aux aveugles. Qu'il peut d'ailleurs faire bien d'autres miracles. Mais retenons d'abord le fait que Jésus ait pris le temps de s'arrêter. En apparence, Jésus semblait ne pas voir Bartimée. Et pourtant, il voit bien sa situation. Et il s'intéresse à cet homme. Et il s'intéresse à ses besoins. Nul doute que lorsque nous nous adressons au Seigneur, il s'intéresse à nous. Comment puis-je en être certain par rapport à ce que je viens de dire? Comment puis-je être certain que lorsque je m'adresse au Seigneur, il s'intéresse à moi? Eh bien, tout simplement parce que c'est écrit dans sa parole. C'est écrit dans notre texte. C'est le témoignage des hommes qui ont connu Jésus. Et parce que Marc était dans l'entourage de Pierre, nous pensons que ce que Marc écrit ici, eh bien, rend compte de ce que Pierre a vécu. Bien sûr, il faut préciser aussi que notre texte est entièrement inspiré de Dieu. Dieu qui ne peut pas mentir. Donc si Dieu nous dit cela, il a forcément raison. L'attitude de Jésus est exactement ce que nous attendons d'un roi juste. Sa compassion est celle de Dieu. Alors oui, nous pouvons être assurés qu'en venant à lui, nous trouverons un roi magnanime. Nous trouverons un roi qui s'intéresse aux petits. Un roi qui leur ouvre son royaume, comme nous allons le voir tout de suite. Et c'est là que nous arrivons au troisième moment de notre texte, au dénouement. Ce pourquoi tout le reste nous a été rapporté. Ce moment de la guérison, où celui qui ne voyait pas voit et suit Jésus. Je relis le verset 52. Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Certains comprennent le verbe « sauver » ici dans le sens de « guérir ».« Ta foi t'a guéri ». Et il est vrai que Jésus ne parle sans doute pas du salut au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire le fait d'avoir la vie éternelle parce que nous avons mis toute notre confiance en Jésus et en son œuvre. Jésus ne peut pas y faire référence puisqu'il n'a pas encore accompli son œuvre à la croix. Mais en même temps, cet homme qui retrouve la vue et qui se met à suivre Jésus montre qu'il n'a pas été seulement restauré physiquement. En ouvrant les yeux, Bartimée voit celui qui l'a guéri. Il voit celui que lui et son peuple attendent depuis si longtemps. Et quelle merveilleuse vision! Quelle merveilleuse vision lorsque la première personne qu'il voit en ouvrant les yeux n'est autre que le Messie. Je ne sais pas si on aurait autant profité de ce spectacle si on était à la place de Bartimée. La première personne qu'il voit lorsqu'il ouvre les yeux, c'est celui qui l'attend, comme le reste du peuple, le Messie promis, le fils de David. Et Bartimée ne retourne pas s'asseoir au bord du chemin. Il ne rentre pas dans Jéricho pour annoncer ce que Jésus a fait, mais il le suit sur le chemin, comme vous le voyez au verset 52. Il le suit sur le chemin en toute simplicité. Et la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'appuyer là-dessus, sur le fait que Marc parle du chemin. Il en parle tout au long de cette section, et là, c'est de nouveau répété. Ce Bartimée qui était au bord du chemin se met à suivre Jésus sur le chemin, désormais. Ce chemin, bien sûr, qui va mener Jésus à la croix. Bartimée suit Jésus. Et pourtant, lorsqu'on se souvient de l'histoire de l'homme riche, c'était bien compliqué pour l'homme riche. Bien compliqué pour lui de faire une telle démarche. Mais pour ce mendiant qui n'a rien, suivre Jésus est la suite logique après ce qu'il vient de vivre. Cependant, il faut le dire, hein, tous ceux qui sont guéris par Jésus ne le suivent pas forcément. Je me souviens d'un témoignage de conversion d'une sœur qui est venue à Christ parce que sa cousine était malade et que le Seigneur, dans sa grâce, l'avait guérie. En voyant cela, cette sœur a cru, mais pas sa cousine. Sa cousine qui a bénéficié de cette guérison miraculeuse, et elle le sait puisqu'ils ont, prié pour ça, eh bien ne s'est pas tournée vers le Seigneur. Mais la sœur en question dont je parle, elle, qui a vu cela, s'est tournée vers le Seigneur. tous ceux qui sont guéris par Jésus ne le suivent pas forcément. Mais dans le texte de cet après-midi, celui qui ne voyait pas voit et il suit Jésus. Cet homme, Bartimée, a vraiment la foi, une foi placée en Jésus. Et pour nous, le témoignage que nous avons dans notre texte concernant Jésus est aussi une confirmation supplémentaire qu'il est bien l'envoyé de Dieu. Rendre la vue à un aveugle n'est pas une guérison de routine pour Jésus. Rendre la vue à un aveugle, c'est le signe qu'il est vraiment celui qui devait venir. Quand Jean-Baptiste, du fond de sa prison, s'est demandé si Jésus était vraiment le Messie, s'il était vraiment celui qui devait venir, voici ce que Jésus lui a répondu à ceux que Jean a envoyés. On lit cela en Matthieu chapitre 11, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Quelle est la preuve que Jésus est bien le Messie ? Les aveugles voient. Et tout cela correspond à ce qu'Ésaïe annonçait. On lit en Ésaïe chapitre 35, versets 4 et 5. « Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. » Ça correspond à ce que Ésaïe annonce des siècles avant. Au moment où Dieu viendra, les yeux des aveugles seront ouverts. C'est un signe que Jésus est bien le Messie. Ce n'est pas juste un miracle extraordinaire. Bien sûr, c'en est un. Mais ce n'est pas juste une guérison parmi tant d'autres. C'est une preuve que Jésus est bien celui que Dieu a envoyé. Il est capable de rendre la vue à des aveugles. Et cela peut se comprendre autant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Pour Bartimée, c'était surtout d'ordre physique, car comme nous l'avons vu, il voyait déjà spirituellement. Bartimée, pour le dire autrement, nous est donné en exemple, comme le disciple qui vient simplement avec sa foi, sans rêve de grandeur, sans prétention comme les douze, si on se souvient encore de ce que les douze osaient demander. Bartimée vient simplement avec la foi, et il nous sert d'exemple en ce sens-là. Nous n'avons pas besoin de venir au Seigneur avec nos prétentions, avec notre pédigré, avec nos diplômes, en montrant tout ce que nous savons faire. Le Seigneur n'est pas du tout impressionné par cela. Il veut que nous venions simplement avec la foi. À l'exemple de Bartimée, vous vous rendez compte que c'est quand même un mendiant qui nous sert d'exemple. Ces dernières semaines, nous avons beaucoup parlé de ce que signifiait suivre Jésus et de ce que cela coûtait réellement, renoncer à soi-même et porter sa croix. Bien sûr, les textes de l'évangile de Marc nous y conduisaient. Et une nouvelle fois, il en est question cet après-midi. Pour Bartimée et les autres, suivre Jésus, c'était le suivre littéralement sur le chemin de la croix. Et nous savons qu'au bout du compte, tous finiront par l'abandonner. Jésus ira à la croix seul. Il nous est nécessaire, je pense, dans notre quotidien parfois trop rempli, de nous souvenir que nous nous sommes engagés à être disciples de Jésus, à le suivre dans tout ce qu'il nous demande de faire, quoi qu'il en coûte et en toutes circonstances. Est-ce que vous vous souvenez de cet engagement ? Pris il y a peut-être très longtemps, mais pourtant c'est toujours d'actualité. Ce n'est pas un engagement périmé, à ce que je sache. Mais nous avons besoin encore de l'entendre, parfois dans un quotidien où on est tellement happé par autre chose. On a besoin d'entendre « Oui, je suis un disciple de Christ et je continuerai à le suivre, en toutes circonstances, quoi qu'il en coûte. » Et si, comme Bartimée, nous avons reçu de Dieu tant de bienfaits, tant de grâces, tant d'amour, alors ne restons pas assis au bord du chemin, mais mettons-nous en route. Jésus est bien la seule personne digne d'être suivie. La seule personne qui mérite qu'on puisse la suivre. car lui seul a porté sa croix. Lui seul a été puni pour nos péchés. Lui seul a été condamné à notre place. Lui seul nous a obtenu le pardon des péchés. Lui seul est ressuscité d'entre les morts pour nous accorder la vie. Une vie éternelle en présence du Dieu trois fois saint. Lui seul. Alors oui, Jésus est la seule personne digne que nous puissions la suivre, quoi qu'il en coûte. Et pour la semaine qui est devant nous, cette semaine pascale qui précède Pâques, nous allons lire les derniers chapitres de l'évangile de Marc. Tout ce qui s'est passé durant les derniers jours qui précèdent la croix. Tout ce que Jésus a enduré comme s'il était un vulgaire brigand jusqu'à la mort. Et pourtant, c'est ce que le Messie a fait pour nous. C'est ce que le Fils de David a fait pour nous. Il a eu pitié de nous. Il a eu pitié de notre détresse. Il a eu pitié de notre misère en tant que pécheurs. Il a eu pitié à chaque fois qu'on a pu aussi lui crier « Aie pitié de moi !» Jésus a fait preuve de compassion envers nous. Comme il a fait preuve de compassion envers Bartimée. Et c'est pourquoi nous le suivons. N'oublions pas cela. C'est parce qu'il a eu pitié de nous que nous le suivons. Sa grâce est notre motivation pour continuer à le suivre. C'est parce qu'il m'a fait grâce, il a eu pitié de moi. Je ne méritais pas ce qu'il a fait pour moi, mais il l'a fait quand même. C'est pourquoi je le suis. Nous devons nous souvenir que c'est cette grâce-là qui nous motive. Nous devons nous souvenir que c'est son évangile qui nous rappelle quel sauveur merveilleux nous avons. Et peut-être que cet après-midi, il t'appelle aussi soit à placer ta confiance en lui, soit à te remettre en route. Et pour sûr, nous pouvons compter sur son Esprit Saint qui œuvre en chacun et chacune des enfants de Dieu. Oui, ce n'est pas quelque chose que nous allons essayer de faire de toutes nos forces, mais c'est toujours en comptant sur l'Esprit de Dieu. Oui, nous pourrons suivre Jésus avec l'aide de son Esprit. Nous qui avons reçu de Jésus plus qu'une guérison physique, à savoir un salut éternel, comment allons-nous nous lever et le suivre cette semaine ? Parfois, on préfère rester assis, n'est-ce pas ? C'est plus confortable. Pourtant, Bartimée, lui, n'est pas resté assis. Il a suivi Jésus. Alors, je vous pose la question, comment allons-nous nous lever cette semaine et comment allons-nous le suivre ? Comment allons-nous répondre à celui qui a déjà manifesté tant d'amour et tant de compassion à notre égard ? Et celui que nous avons chanté tout à l'heure comme roi des rois attend de nous une allégeance entière, autant le dimanche, comme aujourd'hui, que tous les autres jours de la semaine. Une allégeance entière. Alors je repose la question, comment allons-nous suivre notre roi cette semaine ? Et je vous propose justement de prendre un temps pour réfléchir à cela et pour y répondre. Comment allons-nous suivre notre roi cette semaine ? Nous allons prendre une minute pour cela. Seigneur notre Dieu, lorsque nous considérons combien ça semblait facile pour Bartimée de se lever et de pouvoir suivre Jésus, nous repensons peut-être aussi à nos premiers engagements, à la première fois où nous t'avons dit oui, où nous avons considéré tout ce que Jésus a accompli et où nous avons dit oui, nous le suivrons. Mais tu vois aussi qu'avec le temps, eh bien, cet engagement parfois se fragilise pour diverses raisons. Et toi, tu connais ces raisons parfaitement. Et on a tellement besoin de ce rafraîchissement, comme pour Bartimée qui ouvre les yeux, qui voit son Messie et qui veut le suivre. Nous avons tellement besoin, Seigneur, que à notre tour, Seigneur, tu nous ouvres les yeux si pendant un temps nous nous sommes assoupis, si pendant un temps nous avons fermé les yeux à ton sujet. Et veuille nous montrer, Seigneur, encore de nouveau, combien tu es glorieux et combien tu es plein de grâce. Et cette grâce, tu l'as manifestée en Christ pour nous. Et en considérant cette grâce, eh bien, c'est vrai, nous avons encore une raison de nous lever. Nous avons encore une raison de marcher après toi, à ta suite. Et merci Seigneur parce que tout cela, nous ne pouvons le faire que si nous sommes poussés, stimulés par ton esprit en nous. Et merci parce que tu nous as donné ton esprit pour que nous ne puissions pas flancher complètement, mais qu'on puisse encore se relever et qu'on puisse marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors merci Seigneur parce que oui, nous pouvons compter sur toi encore pour cette semaine. Nous pouvons compter sur le fait que toi qui es fidèle, tu nous donneras les forces nécessaires pour continuer à suivre ton chemin. Et merci parce que tu pardonnes aussi nos égarements. Tu pardonnes aussi le fait que nous n'ayons pas tenu notre engagement de départ. Et merci parce que tu nous encourages, tu nous appelles encore à nous lever et à continuer. Allez, veuille encore, Seigneur, continuellement nous encourager par ta parole. Et c'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.